Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un magazine dominé par la messe du pape François au sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida, patronne du Brésil, et par un nouvel appel du Saint-Siège en faveur d'une solution politique au conflit syrien. Analyse, reportage et témoignage tout au long de cette émission. C'est à toute l'Église de l'Amérique latine que l'ancien archevêque de Buenos Aires a voulu consacrer son pèlerinage à Notre-Dame d'Aparecida ce mercredi, à 200 km de Rio de Janeiro, où il présidera à partir de jeudi soir les 28e Journées mondiales de la jeunesse. Avec 7 millions de pèlerins par an, Aparecida est le deuxième sanctuaire marial le plus visité du continent. Sa dévotion est notamment liée aux souffrances des esclaves noirs du Brésil. Pour s'y rendre, le pape François a sacrifié une journée de repos qui figurait sur l'agenda initial préparé pour Benoît XVI. Le Saint-Père a tenu personnellement à accomplir cet acte de dévotion mariale avant de rejoindre les jeunes, lui qui, au lendemain de son élection comme évêque de Rome, avait voulu visiter la basilique Sainte-Marie-Majeure afin de confier à la Vierge son ministère de successeur de Pierre. Et ce mercredi, en présence de dizaines de milliers de fidèles, il lui a recommandé le succès des Journées mondiales de la jeunesse, déposer à ses pieds la vie du peuple latino-américain, et à la fin de la messe, au cours d'une prière solennelle, il lui a consacré son pontificat.
Ô Maria Santissima, per los méritos de nosso Señor Jesus Cristo.
Pour les évêques du continent latino-américain et pour le pontife actuel, Aparecida est un lieu significatif. C'est là que s'est déroulée en 2007 la 5e Assemblée Générale de l'Épiscopat d'Amérique latine et des Caraïbes, inaugurée par Benoît XVI. À l'époque, le cardinal Bergoglio avait participé activement à la rédaction du document conclusif de cette Assemblée où il avait fait forte impression. Un texte majeur, au fort contenu social et politique, visant à redonner un élan d'évangélisation au continent, un texte marqué par l'influence et la pensée du futur pape. Le modèle proposé invite à sortir de l'enclos d'une église autosuffisante pour atteindre toutes les périphéries humaines, surtout dans les grandes mégapoles, et souligne l'option préférentielle pour les pauvres. Cette assemblée apaisée, libre et participative, le pape François l'a évoquée mercredi à l'homélie de la messe célébrée à l'intérieur de la basilique d'Aparecida, parlant d'un grand moment d'église et mettant l'accent sur un aspect qu'il affectionne, la richesse de la piété populaire comme expression spontanée du peuple de Dieu. Xavier Sartre.
Neste santuario, seis años atrás.
Dans ce sanctuaire où s'est tenue la 5e conférence générale de l'Épiscopat de l'Amérique latine et des Caraïbes il y a 6 ans, s'est déroulé un fait très beau dont j'ai pu me rendre compte personnellement. Voir comment les évêques se sentaient encouragés, accompagnés et dans un certain sens inspirés par les milliers de pèlerins qui venaient chaque jour confier leur vie à la Vierge. Nous pouvons dire que le document d'Aparecida est bien connu justement à cause de cette imbrication entre les travaux des pasteurs et la foi simple des pèlerins sous la protection maternelle de Marie. Dans son homélie, le Saint-Père n'a pas manqué d'inviter les pasteurs, les parents et les éducateurs à transmettre aux jeunes les valeurs qui feront d'eux les artisans d'un monde plus juste, plus solidaire et fraternel, et à encourager la générosité qui les caractérise. Ils sont, a-t-il dit, un moteur puissant pour l'Église et pour la société. Ils n'ont pas besoin seulement de choses, ils ont besoin avant tout que leur soient proposées les valeurs immatérielles qui sont le cœur spirituel et la mémoire des peuples, la solidarité, la persévérance, des valeurs qui trouvent leurs plus profondes racines dans la foi chrétienne. Et s'adressant aux jeunes eux-mêmes, il les a mis en garde contre les idoles éphémères, comme l'argent et le pouvoir. Reprenant des idées qui lui sont chères, le pape François a recommandé 3 attitudes. Garder l'espérance, se laisser surprendre par Dieu et vivre dans la joie. Même au milieu des difficultés, Dieu agit et nous surprend, a-t-il lancé. Le chrétien est joyeux, il ne peut pas être pessimiste.
Dans une brève allocution, l'archevêque d'Aparecida a rappelé que ce sanctuaire est une icône religieuse nationale. En le visitant, vous visitez symboliquement tout le Brésil, a-t-il dit à l'adresse du pape François. Le cardinal Damasceno a par ailleurs insisté sur l'importance pour l'Église de s'engager aux côtés des pauvres et d'être pauvre pour évangéliser. Pour assister à la messe, des milliers de personnes avaient passé la nuit dehors malgré le froid. Dès son arrivée au sanctuaire d'Aparecida, le souverain pontife s'était rendu dans la salle des 12 apôtres pour prier devant la statuette en terre cuite retirée des eaux d'un fleuve au début du XVIIIe siècle. Aparecida est située à mi-chemin entre Rio et Sao Paulo, dont l'archevêque et le cardinal Odilo Scherrer. On l'écoute.
C'est un beau signe. Nous sommes contents d'avoir ici à Rio, en Amérique latine, cette GMG. Et je crois que les fruits seront abondants. Nous avons déjà accueilli le pape François et maintenant nous attendons que le pape François nous parle aux jeunes et nous indique aux jeunes la voie qu'il doit suivre pour être des bons chrétiens, pour être des bons citoyens, pour être actif dans l'Église, dans la mission de l'Église.
Le cardinal Odilo Scherrer, archevêque de Sao Paulo, interrogé par notre envoyé sur place, Olivier Tosserie. Après une visite mercredi soir dans un hôpital catholique où sont soignés des alcooliques et des toxicomanes et dont le plus jeune patient est un garçon de 8 ans, soigné en même temps que son père et sa mère toxicomanes, le Saint-Père visitera jeudi une favela réputée dangereuse. Le prêtre responsable pour le diocèse de la pastorale des favelas lui remettra des lettres des habitants pour l'informer de leurs problèmes les plus concrets. Le pape François, qui prône une église proche des blessés de la vie, a voulu ajouter des étapes symboliques à son programme. Notre envoyé sur place a visité la Cité de Dieu, une favela rendue célèbre par un film qui relatait la violence qui régnait dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, elle a été pacifiée par le gouvernement, mais la pauvreté et la détresse sociale continuent d'y dominer. Une religieuse brésilienne y vit et travaille. La mère Teresa de la favela, comme l'ont surnommé ses habitants, s'occupe d'une association de réinsertion sociale. Elle collabore avec l'hôpital visité mercredi soir par le pape. Olivier Tosserie a donc rencontré sœur Elsie, de la famille polignienne, pieuse disciple du Maître Divin. Reportage.
Des voix s'élèvent derrière un mur orné d'une photo du pape François. Quelques frêles maisons perdues dans la végétation luxuriante d'une colline, des toits en tôle rouillés qui émergent des arbres. C'est la favelas de la Cité de Dieu. Un groupe de jeunes toxicomanes répète les chants des JMJ. Ils font partie de l'association Solidarité Amis de Bethany. Elle a été fondée il y a 13 ans par sœur Elsie. Elle s'occupe d'adultes victimes d'exclusion sociale, de la drogue ou de l'alcool. Sa mission de religieuse s'inscrit autour de trois axes, le sacerdoce, l'eucharistie et la liturgie. C'est sur cette dernière qu'elle insiste dans son action.
La liturgie, nella realtà dei poveri.
La liturgie de la réalité des pauvres. Comme le disait notre aimé pape Jean-Paul II, il faut retrouver l'image du visage de Dieu, défiguré, souffrant, dans celui de nos frères. Alors pour moi, religieuse consacrée à la prière, ça a été un appel puissant de me dédier à retrouver l'image de ce visage divin sous la souffrance.
En 13 ans, 1700 adultes sont passés par ces programmes de réinsertion. Après être pris en charge par un psychologue et une période de sevrage de l'alcool ou de la drogue, ils se dédient à une activité, recyclage de déchets pour en faire des meubles ou des objets de décoration, travail dans des plantations de bananiers, ouvrage d'artisanat, une proposition positive et constructive dont a besoin le pays, comme le rappelle sœur Elsie.
Le Brésil souffre de ces situations de détresse sociale. Nous devons, comme le disait notre présidente, faire sortir nos frères de la très grande pauvreté. Et pour nous, ceux qui vivent dans la rue, ne savent où dormir et n'ont rien, sont les pauvres, parmi les pauvres. Les politiques sociales laissent encore à désirer au Brésil. Mais depuis 10 ans, le gouvernement aide les ONG avec un programme national de soutien. Je peux ainsi, grâce à des fonds publics, payer l'assistante sociale, l'éducatrice. Mais la majorité ici est bénévole.
Un service gratuit pour les plus démunis, pour leur redonner courage et espoir. Un acte de foi et d'évangélisation qui fait écho à l'injonction du pape peu après son élection, à aller porter la parole du Christ dans les périphéries.
Au programme de la journée du pape jeudi à Rio figure, outre la visite à une favela, la bénédiction des drapeaux olympiques, une rencontre avec quelques milliers de jeunes argentins dans la cathédrale et surtout la première rencontre du pape avec les jeunes participants au JMJ dans la soirée sur la plage de Copacabana, la traditionnelle fête d'accueil. Par ailleurs, trois présidents latino-américains et deux vice-présidents ont annoncé leur présence à la messe finale dimanche. Le succès des JMJ repose aussi sur le travail des volontaires. Écoutez le témoignage d'Alexis, un Lyonnais de 24 ans, en service au sein du pôle communication, réseaux sociaux.
On a un gros point d'interrogation, c'est le fait que le nouveau pape a pris ses fonctions cette année. Et on se doute qu'il va sortir un peu des clous, mais on ne sait pas dans quelle mesure, comment, etc. Donc ça demande beaucoup plus d'anticipation et être prêt à parer à toute éventualité. Étant donné que voilà, Benoît XVI était plutôt allait plutôt suivre le protocole, on était moins inquiet pour ça. Là, il faut, surtout nous, donc on est dans la communication des réseaux sociaux, il faut qu'on soit prêt à donner une information qui va arriver très vite, qui n'était pas forcément prévue.
C'est quelque chose de central maintenant, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour les JMJ.
Oui, tout à fait. Rio a vraiment voulu mettre les réseaux sociaux au cœur de la communication. On a un très gros pôle, on se relaie en permanence, jour et nuit, pour couvrir par rapport au décalage horaire dans le monde entier. Ils veulent vraiment que ceux qui ne puissent pas vivre les JMJ en réel puissent être au cœur de la vie des JMJ à travers les réseaux sociaux. C'est aussi une plateforme de communication. On reçoit régulièrement des messages de pèlerins qui sont sur place, qui ont besoin d'aide pour des problèmes, etc. Donc on a aussi un rôle pour faire remonter ces informations. Donc c'est vraiment un poste central dans la communication des JMJ.
Et toi, comment tu arrives à concilier ton travail, ta tâche au service donc, de ce chapitre, de ce dossier des réseaux sociaux, et en même temps ton expérience de pèlerin et ton pèlerinage à Rio?
Il faut savoir qu'en tant que volontaire, on fait le choix de ne pas assister à toutes les activités, à tous les événements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait au départ, qu'on choisit. On essaie évidemment au maximum de profiter. On a la chance d'être, nous, une grosse équipe. Donc en fait, on organise des tours, ce qui nous permet de choisir entre nous les moments où on va se libérer, etc. Mais c'est sûr qu'on sait pertinemment qu'on ne verra peut-être pas le pape comme on voulait le voir, on ne sera peut-être pas sur la plage le jour de la messe finale. Voilà. On accepte de renoncer à certaines choses. Mais en même temps, c'est une autre façon de vivre les JMJ, de se mettre au service d'une organisation. Et c'est vraiment une belle expérience. C'est vivre les JMJ d'une manière complètement différente. Mais personnellement, moi, je ne pourrais plus faire les JMJ que comme volontaire.
500 000 jeunes avaient participé mardi soir à la messe d'ouverture des JMJ présidée par l'archevêque de Rio sur la plage de Copacabana. Dans une atmosphère festive entretenue par des concerts de musique du monde, des jeunes pleins d'enthousiasme malgré le vent et la pluie et en dépit de la panne qui a paralysé pendant 2 heures le métro de Rio, provoquant le chaos dans la ville. Le pape François, qui a suivi l'événement à la télévision, s'est dit impressionné. Le souverain pontife, qui se reposait sur les hauteurs de la ville au milieu de la forêt tropicale, a envoyé un message qui a été lu par un jeune. Il exhorte les pèlerins du monde entier à se laisser attirer par Jésus-Christ et à devenir missionnaires. La chaleur toute carioca des Brésiliens a profondément touché les jeunes participants européens, qu'ils soient français ou belges, comme Clotilde, Stein, Marie, Gwenaël. Écoutez.
On voit vraiment que le Christ est en eux, parce qu'ils sont vraiment accueillants. On a vraiment l'impression que ils nous accueillent comme si nous-mêmes on était le Christ. On fait vraiment partie de leur famille, en fait, quand on habite chez eux. Et oui, c'est incroyable. C'est incroyable.
Les Brésiliens sont vraiment très chaleureux. La façon dont on fait des eucharisties, des messes, il y a beaucoup de joie de vivre. On chante beaucoup. Le curé, il fait sa messe d'une façon très émouvante.
C'est très impressionnant par la joie des Brésiliens, l'accueil des Brésiliens, parce qu'il y a tout le temps des accolades, vraiment une grande fraternité. Chose qu'on a peu l'habitude de voir en France. Et on a pu mesurer en même temps la difficulté de vie quotidienne par l'installation assez précaire, des habitations, etc. Mais en même temps, un accueil phénoménal parce qu'ils donnent tout. Beaucoup de richesse humaine, même si la richesse financière n'est pas forcément là.
Ben, la joie et la façon d'exprimer sa joie. On tape des mains tout le temps, on danse, on chante et ça c'est merveilleux quoi, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu moins en France. C'est peut-être une façon différente de l'exprimer parce que ici on pourrait dire aussi il y a moins de moments de silence ou de recueillement. Donc c'est différent, mais cette façon-là de l'exprimer, je la trouve géniale.
Des chrétiens orientaux, eux, ont pu se rendre à Rio. Plusieurs délégations sont présentes. Une centaine de jeunes chaldéens d'origine irakienne vivant en France, mais aussi des chrétiens d'Irak, du Liban, tout rite confondu, de Palestine et de Galilée avec Mgr Chomali et Mgr Marcuzzo, ainsi que 65 coptes catholiques d'Égypte, des Arméniens et des Ukrainiens. Un rassemblement qui leur permettra de sentir l'universalité et la catholicité de l'Église. Le Saint-Siège lance un nouvel appel à la communauté internationale pour que cesse la violence en Syrie. L'observateur permanent à l'ONU, Mgr Chalikat, est intervenu dans le cadre d'un débat sur le Moyen-Orient. Tout en appelant de ses voeux le succès des négociations israélo-palestiniennes, le nonce souligne que le problème le plus urgent actuellement, c'est la Syrie, où la population est déchirée par une guerre sans fin. Combien de souffrances faudra-t-il encore, s'est-il insurgé, avant que soit trouvée une solution politique ? Mgr Chalikat a également attiré l'attention sur la situation de la communauté chrétienne qui vit dans l'insécurité. Il a cité les meurtres et les enlèvements, les 60 églises détruites, le patrimoine artistique et culturel menacé. Le Saint-Siège rappelle qu'il ne peut y avoir de progrès social sans une reconnaissance du rôle des minorités ethniques et religieuses. La solution militaire n'est pas la bonne, a martelé le nonce. Et on est toujours sans nouvelles des deux évêques orthodoxes d'Alep, enlevés il y a 3 mois, le 22 avril. Aucune information, aucun indice ne permet d'établir avec certitude ce qu'il est advenu des deux évêques, eu égard à la situation chaotique qui règne en Syrie. Et ce malgré les rumeurs les plus folles et les plus contradictoires qui ont circulé sur leur prétendue libération ou mort, ou encore sur l'identité de leur ravisseur. Le père Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, le confirme et en appelle à la communauté internationale et aux autorités compétentes.
Comme vous le savez bien, la Syrie est en situation de guerre civile, une guerre civile particulièrement atroce, et toute une partie de la Syrie n'est pas réellement contrôlable, au sens où un État exercerait un contrôle sur son territoire. Par conséquent, de fait, toutes les hypothèses sont possibles. Celle du banditisme, du kidnapping pour une rançon, l'action d'un camp, l'action de l'autre, bien sûr une volonté de fragiliser la communauté chrétienne, parce que lorsqu'un évêque est visé et atteint, c'est toute la communauté chrétienne qui est fragilisée. Voilà, donc nous sommes dans la grande perplexité devant cette situation.
Est-ce que vous-même, à l'œuvre d'Orient, vous avez des contacts sur place, des contacts directs ou indirects avec des personnes qui s'occupent de près ou de loin de cette affaire ?
Alors, nous n'avons pas de contacts sur place, et vous savez, dans cette situation... Nous devons éviter deux attitudes. Celle de compliquer ceux qui essayent d'avancer dans des négociations. Des négociations en vue d'une libération d'otages, ça ne peut pas se traiter sur la place publique. Et donc nous ne voulons pas interférer, compliquer et fragiliser le travail de ceux qui essaient d'obtenir leurs négociations. Et l'autre écueil, ce serait de laisser une chape de silence s'installer. Alors nous avons préféré laisser, pour nous Français, les pouvoirs publics agir. La Turquie peut agir, elle a un pouvoir d'influence dans la région, et puis aussi, évidemment, les autorités de la rébellion avec lesquelles le gouvernement français a des contacts. Alors, au bout de 3 mois, de fait, nous sommes en droit tout de même de poser un certain nombre de demandes. Nous ne voulons pas nous immiscer dans ces négociations. Nous ne réclamons pas que des comptes rendus nous soient faits et qu'ils deviendraient plus ou moins publics et donc compliqueraient, mais nous avons tout de même le droit de savoir, 1, y a-t-il des traces de vie des deux évêques ? 2, y a-t-il des interlocuteurs crédibles avec lesquels des négociations sont ouvertes ? Nous demandons à la fois au gouvernement des différents pays concernés, aux autorités de la rébellion, voire aux instances internationales, et notamment de l'ONU, de faire le point et de tenir informé de manière claire sur l'état ou non de négociation. Y en a-t-il, n'y en a-t-il pas ? Y a-t-il des traces de vie ? N'y en a-t-il pas ? Notre position n'est pas une position politique, elle est, je dirais, à la fois humanitaire et ecclésiale. Nous voulons savoir ce que sont devenus ces deux évêques.
Le père Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, interrogé par Manuela à Fidji. C'est la fin de ce magazine enregistré à 18h heure de Rome, mais vous pouvez à tout moment retrouver toutes les informations sur les JMJ et sur le voyage du pape François au Brésil sur notre page internet radiovaticana.va. Vous pourrez y suivre les temps forts de la semaine en vidéo avec commentaires en français. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse, macfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.